Aujourd'hui, nous allons célébrer Sainte-Hélène. Il y a beaucoup d'Hélène au Québec. Et puis, sa fête, malheureusement, tombe le 18 août, durant les vacances. J'ai pensé vous en parler aujourd'hui parce que elle est la mère, comme chacun sait, de Constantin, cet empereur extrêmement important qui a transformé l'empire de Rome, à son époque, était un empire païen, en un empire chrétien. Il a, pour ainsi dire, cédé à l'Église catholique cet empire. Et on s'est demandé si, en faisant ça, Constantin était le bienfaiteur ou même le fossoyeur du christianisme. On s'est demandé si, en donnant tant de pouvoir à l'Église catholique, il n'entraînait pas l'Église dans des dédales qui ont failli avoir raison d'elle, d'ailleurs. Parce que le pouvoir, le grand pouvoir politique, c'est pas l'affaire de l'Église. C'est pas l'affaire de ceux qui prêchent l'Évangile. C'est pas l'affaire de ceux qui doivent être complètement consacrés à l'enseignement du Christ et à la sanctification des âmes. C'était un peu tragique dans un sens, puis d'une autre façon, on peut dire que c'était un bienfaiteur que ce Constantin, le fils de Sainte-Hélène. C'est l'anniversaire aujourd'hui de son entrée à Rome, à Constantin, le 29 octobre 312, lorsque le peuple a clamé, il y a de ça quelque chose comme 1685 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Le règne de Constantin a duré de l'an 306 à 337. C'est assez long pour le règne d'un empereur, plus de 30 ans, et ça marque l'un des changements, comme je vous ai dit, les plus importants de toute l'histoire de l'Église. Parce qu'après 3 siècles de persécution épouvantable, et parfois de tolérance plus ou moins consentie, là, selon les régions, là, le christianisme est devenu la religion légale, donc, de l'Empire romain grâce à cet empereur Constantin, fils de Sainte-Hélène, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a bien des documents qui font défaut, hein. On a un peu de difficulté à suivre l'évolution des croyances personnelles de cet homme Constantin. On peut supposer qu'il est passé du culte des dieux, de ce qu'on appelait la tétrarchie, c'est-à-dire le régime établi par l'empereur Dioclétien, à une sorte de monothéisme teinté de philosophie, puis de là, finalement, au christianisme, et puis on peut calculer qu'il s'est converti au christianisme sans se faire baptiser en l'an 312. C'est l'année, comme je vous ai dit, de son entrée dans Rome, le 29 octobre, l'anniversaire aujourd'hui. Mais il n'a reçu le baptême, savez-vous, que sur son lit de mort. C'est le pape Sylvestre qui va le baptiser. Ce qui ne l'empêche pas de commettre, d'ailleurs, durant son règne, des crimes contre sa famille et son entourage, à la façon des empereurs précédents. C'est un mélange, cet homme. Mais l'essentiel, c'est de considérer ce que nous pouvons vraiment connaître de lui, puis sa politique. Et c'est intéressant parce que ça concerne l'un des moments les plus importants de toute l'histoire de notre Église. C'est un des grands faits. En résumé, on peut dire que Constantin a été proclamé empereur en Bretagne, savez-vous, oui, en Bretagne, en France aujourd'hui, en l'an 306, puis 6 ans plus tard, comme il est vainqueur de l'autre empereur Maxence à la bataille du pont Milvius, mais il est désormais premier auguste, comme on dit. Il est maître de l'Occident. Puis, comme je vous ai dit, se convertit au christianisme, et puis en Occident, ben il y a la tolérance qui existait déjà depuis un peu avant lui, d'ailleurs, depuis Galère. Mais en 313, de toute façon, l'année après son arrivée à Rome, il proclame l'édit de Milan, je vous expliquerai ça tout à l'heure, puis l'Église est reconnue aussi bien en Orient qu'en Occident. Et 6 ans après son entrée à Rome, en 318, il proclame l'interdiction des sacrifices privés païens. Et finalement, 324, à la suite d'une bataille, Constantin est vainqueur et seul empereur. Et puis, il meurt en l'an 337, et ce sont ses fils qui lui succèdent de l'an 337 à 361, donc pendant, disons, 25 ans. Lorsque Constantin succède à son père Constance dans le gouvernement des Gaules, qu'on appelle la France, en 306, le reste de tout l'Empire romain était aux mains de Galère et de Maximin en Orient, et de Maxence en Italie et en Afrique. Et la persécution avait subi contre les chrétiens dans tout l'Empire, sauf dans les Gaules, hein, sauf dans la France, on peut dire aujourd'hui. Et Constantin continue la politique libérale de son père, puis en 311, juste l'année avant qu'il va rentrer à Rome, là, Maxence, qui est jaloux des succès puis du prestige de Constantin, fils de Constance, eh bien, il lui déclare la guerre et Constantin relève le défi. D'un bond, il franchit les Alpes avec son armée. Il se dirige vers l'Italie. Les villes du nord de l'Italie tombent les unes après les autres. Et c'est lui qui en prend le pouvoir. Puis on sait, c'est raconté, toute sa marche victorieuse là, par la voie flaminienne qui est très réputée. On dit que le tombeau de sa mère serait sur la voie flaminienne. On dit qu'il est aussi à Venise, à Sainte-Hélène. On dit qu'il est à Constantinople, le tombeau de Sainte-Hélène. On ne sait plus où il est rendu. On dit même qu'il est en France. Alors donc, il descend en Italie, et puis c'est le choc décisif là, des deux armées au bord du Tibre, et puis Maxence est englouti dans le fleuve. Et là, Constantin entre dans Rome, donc le 29 octobre, l'anniversaire aujourd'hui, 312. Le Sénat l'acclame, le peuple l'acclame, il y a 1685 ans, donc aujourd'hui. Il est parti païen, en fait, de la Gaule, ce Constantin. Puis il arrive dans Rome d'une façon très particulière. On raconte ça partout, hein? Il arbore sur ses étendards le signe du Christ, la croix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Eusèbe, l'historien, dans sa vie de Constantin, la Vita Constantini, au premier chapitre, il raconte ce drame extraordinaire. Il nous dit qu'il tient son récit de l'empereur Constantin lui-même. Alors, il raconte un après-midi, sans doute au passage des Alpes, le prince Constantin, c'est comme ça qu'on les appelle souvent, le prince, et tous ses soldats qui l'entouraient ont vu dans le ciel au-dessus du soleil une croix lumineuse avec cette légende « Tuto vixa » en grec. Ça veut dire « Par ce signe, tu vaincras ». Et la nuit suivante, le Christ lui apparaît avec le même signe en lui ordonnant de le reproduire sur un étendard qu'on appelle le « Labarum ». Et là, le deuxième écrivain contemporain de cette époque qui parle de cet événement, c'est Lactance. Ou, de toute façon, si c'est pas Lactance, c'est l'auteur, quel qu'il soit, du « De mortibus persecutorum ». Dans cet ouvrage, au chapitre 44, il est dit simplement que Constantin, tandis qu'il reposait, a été averti de mettre le signe du Christ, la croix, sur les boucliers puis de marcher ainsi au combat. Le récit, évidemment, ne mérite peut-être pas qu'on l'accepte dans tous ses détails, mais il reste néanmoins que l'espoir de Constantin, pendant le combat contre Maxence en Italie, là, reposait principalement sur la croix, qui désormais a eu sa place parmi les emblèmes impériaux de l'armée. Et lorsqu'il a eu remporté la victoire contre Maxence, qu'il a jeté dans le Tibre, Constantin a voulu que sa statue le représente, lui, avec une croix à la main. Puis l'inscription, gravée sur le monument élevé en souvenir de la victoire, rappelle que Constantin avait délivré Rome de la tyrannie de Maxence par ce signe du salut, c'est-à-dire par la croix de Jésus-Christ. Constantin n'est pas encore chrétien, mais il va rendre au christianisme, jusque-là persécuté, de très très grands services. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Un de ses premiers actes après la victoire contre Maxence, et c'est une lettre presque menaçante au persécuteur Maximin là, pour l'inviter à ne plus violenter les chrétiens. Ce message prépare un acte qui va être décisif, qui va être destiné à établir sur des bases inébranlables dans tout l'Empire romain la liberté de conscience. Ce qui est toujours une question discutée aujourd'hui, la liberté de conscience. A-t-on la liberté aujourd'hui, disons, d'être un chrétien convaincu et d'être journaliste dans nos journaux ou de travailler à la télévision? Je n'en suis plus si sûr si cette liberté de conscience existe. Évidemment que c'était nous, autrefois, qui étions contre cette liberté de conscience et qui persécutions peut-être les athées ou les agnostiques. Ça nous est rendu aujourd'hui. C'est l'édit de Milan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est promulgué au commencement de 313, l'année qui suit son arrivée à Rome, de concert avec Licinius, qui a succédé à Galère. Donc, quelques mois à peine après son entrée dans Rome, le 29 octobre 312, il proclame l'édit de Milan. L'édit de Milan se divise en deux parties. L'une pose le principe pour l'avenir, puis l'autre règle les réparations qui sont dues au passé. Dans la première, les empereurs déclarent d'abord que la liberté de religion ne peut être contrainte et qu'il faut permettre à chacun d'obéir dans les choses divines au mouvement de sa conscience. Bon, c'est ça la liberté. Ils font ensuite l'application de ce principe aux chrétiens, les seuls parmi les sujets de Rome dont, en ces derniers temps, la conscience religieuse avait été violentée. Après avoir dit que les restrictions mêmes qui accompagnent l'édit de tolérance de Galère sont supprimées, les empereurs ajoutent, Constantin surtout, « Nous voulons simplement aujourd'hui que chacun de ceux qui ont la volonté de suivre la religion chrétienne, le puissent faire sans crainte d'être aucunement molestés. Nous avons donné à ces chrétiens l'absolue liberté de suivre leur religion. » Puis, il s'entend peut-être déjà qu'il y a... Il serait nécessaire de rassurer les païens contre toute crainte de réaction puis de représailles, mais les empereurs rappellent que le principe posé là, ne doit pas seulement profiter aux chrétiens, non, mais à tous. Ils disent... Et c'est très intelligent. Ce que nous leur accordons, nous l'accordons aussi aux autres, qui auront la liberté de choisir et de suivre le culte qu'ils préfèrent, comme il convient à la tranquillité de notre temps, afin que nul ne soit lésé dans son honneur ou dans sa religion. Alors, nous parlons aujourd'hui à rencontre spirituelle de l'empereur Constantin, qui a vécu au IVe siècle et qui a fait de grands changements à Rome, dans l'Empire romain. Il a décrété l'édit de Milan, et puis il y a un règlement qui est bien important, c'est le règlement des questions de détail. Alors les empereurs décrètent, lui, puis l'autre empereur, là, il décrète la reconstitution du patrimoine ecclésiastique catholique supprimé. Ce patrimoine comprend d'abord les édifices qui sont consacrés aux assemblées religieuses. Ils vont être rendus sans indemnité, dit le texte, sans répétition de prix, c'est-à-dire ils n'auront pas besoin de payer, sans délai, sans procès. On a les mêmes problèmes actuellement en Russie avec les catholiques uniates qui se sont fait enlever toutes leurs églises sous le régime communiste. Les empereurs se chargent d'indemniser eux-mêmes, s'il y a lieu, les tiers qui les auraient reçus ou acquis du fisc. Là. Tout est exercé avec une assez grande justice. Les chrétiens, cependant, ne possédaient pas seulement des lieux d'assemblée, mais aussi d'autres propriétés qui appartenaient à leur corporation, c'est-à-dire aux églises, et pas à des particuliers. Alors les empereurs ordonnent qu'en vertu de la même loi, là, sans aucune excuse ou discussion, mais ces propriétés soient rendues à leur corporation, puis à leur communauté, en observant la règle qui a été posée, c'est-à-dire en faisant espérer une indemnité de la bienveillance impériale à ceux qui auront restitué sans répétition de prix. On veut pas léser personne. Je trouve que c'est assez avancé et c'est peut-être des exemples qu'on devrait suivre dans certains pays aujourd'hui. Hein. De toute façon, à vrai dire, ces dispositions ne sont pas absolument nouvelles. On en retrouve l'équivalent déjà 50 ans plus tôt dans des rescrits qui ont été adressés aux évêques par Galien. Elles sont en substance, dans l'édit qui a été promulgué juste l'année avant l'arrivée de Constantin à Rome, en 311, par Galère. Puis la même année, Maxence avait devancé pour la ville de Rome les intentions de son vainqueur en restituant au pape, qui s'appelait d'un drôle de nom, Miltiade, les lieux ecclésiastiques. Alors, comme vous voyez, c'était déjà en branle quand Constantin s'est mis à poser ses gestes. Mais dans l'édit de Milan, les mesures réparatrices sont l'application d'un principe. C'est pas simplement un petit expédient politique comme ce qui arrivait avant. C'est ça le grand changement avec Constantin. Ça devient l'application d'un principe. Les mesures consacrent la liberté de conscience, qui est solennellement reconnue, puis ça fonde aussi l'égalité devant la loi de tous les cultes, entre lesquels se partage de tout le monde romain. Tout l'Empire est immense. C'est là ce qui fait de l'édit de Milan le début d'un ordre de choses absolument nouveau. Et l'édit de Milan va être appliqué dans tout l'Empire. Et l'édit, qui est affiché par l'empereur Licinius lors de son passage en Asie mineure, en Turquie, à Nicomédie, fait loi désormais pour l'Orient comme pour l'Occident. Bon, voyons maintenant, même si Constantin est presque chrétien, que il continue quand même à conserver le titre puis la charge de Pontifex Maximus. Qu'est-ce que c'est ça? Ça le faisait le grand chef du paganisme. C'est étrange, hein? Et puis, Constantin continue à orner les médailles frappées à son effigie des symboles païens en usage. Alors, il temporise, hein? Il veut ménager les païens. Il se garde bien par prudence politique, surtout du vivant de Licinius, mort en 323, donc 11 ans après son entrée à Rome, de marquer publiquement ses préférences religieuses. Il fait attention. Pour ça qu'il se fait pas baptiser tout de suite. Hein? Mais une série d'actes témoigne qu'il entend favoriser le développement du christianisme. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dispense les ministres du culte, les prêtres, les évêques, de divers services publics. Il permet à l'Église d'accepter des testaments. Il valide les affranchissements d'esclaves, ce qui était un peu surprenant, qui pourrait se faire désormais dans les temples chrétiens, au même titre que dans les temples païens. Puis, il adopte le dimanche comme jour de repos public. C'est lui qui adopte le dimanche comme jour de repos public. Oui, c'est Constantin. Et la loi de 321, qui ordonne aux juges, aux corporations puis aux particuliers de chômer le dimanche, n'est pas elle-même une faveur spéciale aux chrétiens. Elle place seulement leurs jours fériés au même rang que les jours fériés ou les congés païens, pendant lesquels devait cesser tout travail qui n'était pas indispensable. Mais Constantin fait, pour ainsi dire, acte de chrétien. Comment? En abolissant dès l'an 320 les lois portées contre le célibat, puis en favorisant aussi le recrutement du clergé catholique, parce qu'il y avait des gens qui pratiquaient le célibat dans l'Église, des moines, des moniales, il y en a été question tout à l'heure, à l'émission qui précède la mienne et qui sera rediffusée, très intéressante, ce soir à 11h30, avec le père Chaussé. Son intervention dans les affaires ecclésiastiques, même doctrinales, montre mieux encore à quel point le souci de la prospérité de l'Église et de son unité préoccupe Constantin. Lorsque les puritains donatistes se manifestent, deviennent très puissants. Ils attaquent comme invalides l'ordination d'un évêque, l'évêque de Carthage, c'est un évêque important. Mais l'affaire est portée devant l'empereur Constantin, puis celui-ci renvoie ça un synode qui est convoqué à Rome. Et il écrit au pape, il ne vous échappe pas que je porte un tel respect à la religieuse et légitime Église catholique, que je voudrais ne voir subsister entre vous ni division ni schisme. Alors en 314, les donatistes, qui sont obstinés, ce sont vraiment des puritains, obligent Constantin à convoquer un concile à Arles, dans le sud de la France. Et déjà, ils manifestent contre eux une véritable horreur. Le concile les condamne. Ils le rappellent, eux, ils en appellent, contre les décisions de ce concile. Ça lui inspire une lettre très intéressante où on voit bien les convictions chrétiennes de l'empereur Constantin. Il dit, « Il demande mon jugement, moi qui attends le jugement du Christ. Mais je le dis en vérité, le jugement des prêtres doit être reçu comme si Dieu en personne était assis sur leur tribunal pour juger à Arles. Car il ne leur est pas permis de penser et de juger autre chose que ce qu'ils ont appris par l'enseignement du Christ. » Ah bon, c'est difficile d'être plus orthodoxe que Constantin, même s'il n'est pas baptisé. C'est spécial, hein? Alors, on connaît les péripéties qui ont suivi, c'est assez curieux. Les donatistes protestent contre les décisions des évêques catholiques et persistent à réclamer des juges civils pour trancher la question. Constantin consent par lassitude, il est fatigué avec eux. Alors, il instruit de nouveau l'affaire. Puis, là, finalement, Constantin se retourne contre les donatistes, là, il confisque leurs églises, puis il bannit leurs chefs. En 320, toutefois, Constantin rappelle les donatistes, puis il veut leur pardonner. Puis il annonce cette façon de pardonner aux évêques catholiques, et c'est très beau ce qu'il dit, le pardon. C'est très catholique, c'est très chrétien, très, très chrétien. J'ai connu que vous étiez des prêtres et des serviteurs du Dieu vivant. En ne vous entendant réclamer, il parle aux catholiques, en ne vous entendant réclamer aucun châtiment contre les impies, des scélérats, des sacrilèges, des profanes, des hommes irreligieux, ingrats envers leur Dieu et ennemis de l'Église, mais plutôt en vous voyant implorer pour eux la miséricorde. Il loue les évêques catholiques d'être miséricordieux. Il ajoute, c'est bien là véritablement reconnaître Dieu et obéir à son commandement. C'est avoir la vraie science, car celui qui épargne les ennemis de l'Église dans le temps amasse pour l'éternité des châtiments sur leur tête. Il y a une vengeance toujours en dessous de là. Alors l'autre empereur, le Licinius, applique mal en Orient l'édit de Milan. L'Église a à souffrir de son intolérance païenne. La discorde éclate entre les deux empereurs, le Licinius et Constantin. Il y a une bataille qui met fin au règne de Licinius en 323, et Licinius meurt l'année suivante. Dès 323, donc, Constantin, le vainqueur, lance un édit destiné à effacer les traces de la réaction païenne qui avait été tentée en Orient par Licinius. Et dans une proclamation à ses nouveaux sujets d'Orient, là où sont aujourd'hui les orthodoxes en principe, il s'adresse à Dieu même. Il dit « Je veux que ton peuple vive en paix et en concorde pour le commun avantage du genre humain, que ceux qui sont encore impliqués dans l'erreur jouissent de la même paix et du même repos que les fidèles. » Il parle bien, ce Constantin, hein, « qu'ils conservent tant qu'ils voudront les temples du mensonge. Nous, nous gardons la splendide demeure de la vérité que tu nous as donnée lors de notre naissance spirituelle, lors de notre conversion. » Et l'empereur Constantin marque nettement ses préférences religieuses, mais toutefois, il ne veut pas les imposer par la force à ses sujets. Il dit « Autre chose est d'accepter volontairement le combat pour une croyance immortelle, autre chose est de l'imposer par la violence et les supplices. » Ce que les musulmans ont toujours de la difficulté à comprendre même de nos jours. Ils regrettent seulement que, pour leur malheur, l'obstination de l'erreur soit encore trop enracinée dans l'âme de quelques-uns de ses sujets. Et plus tard, il manquera pas de faire voir son mépris pour les idoles et pour les faux dieux. Je parle actuellement de l'empereur Constantin pour vous montrer que c'est un personnage vraiment très intéressant. Son zèle pour l'Église se montre parfois un peu indiscret à cette époque. C'est un grand railleur de sa nature. Il refuse en 326... donc déjà 14 ans après son arrivée à Rome. Justement, alors qu'il est à Rome, il refuse de prendre part à la procession solennelle de l'ordre équestre qui monte sacrifié au Capitole, dans la religion païenne de Rome. Mais encore, il s'en moque publiquement. Il n'y va pas de main morte. Ses sentiments se manifestent d'une manière éclatante lorsqu'il fait de Byzance, devenue Constantinople, une résidence impériale, c'est en l'an 330. Et cette ville devient véritablement chrétienne à ce moment-là. Et Rome aussi, les frais d'embellissement en sont souvent faits par les temples dont les dieux d'or et d'argent sont fondus. Il semble même que tous les sacrifices soient prohibés, les sacrifices païens. Toutefois, si le décret a été rendu, il n'a pas été exécuté. On continue les sacrifices païens. L'empereur tient à montrer toujours son esprit de tolérance quand même. Cependant, le temps approche où son zèle pour l'Église va devenir encore plus fort. N'oubliez pas, il n'est pas baptisé encore. C'est dans l'affaire de l'arianisme dont je vous ai déjà parlé. Le prêtre Arius qui nie la divinité du Christ. Il ne sait pas garder la mesure, là. Les débuts de son intervention sont sages, quand même. Puis dans la lettre de 323 par laquelle il s'efforce de réconcilier Arius avec l'évêque saint Athanase d'Alexandrie, dont je vous ai déjà parlé pendant une heure, il y a comme un cri d'angoisse. Il dit « Rendez-moi mes jours tranquilles et mes nuits sans inquiétude. Comment aurais-je l'esprit en repos tant que le peuple de Dieu, le peuple de mes frères dans le service de Dieu, est divisé par un injuste et profond dissentiment? » Il veut vraiment la paix. Et quand sur sa convocation s'ouvre le concile de Nicée, c'est lui le fameux concile de Nicée en l'an 325, eh bien il adresse aux évêques un discours de bienvenue, puis il se proclame leur frère dans le service de Dieu, c'est beau, hein? Puis il confesse que les divisions de l'Église lui ont paru plus terribles que la guerre. C'est pas peu dire, lui qui a été à la guerre plusieurs fois. Après la décision du concile, il sévit contre Arius et ses livres. Puis il envoie aux églises, et particulièrement celle d'Alexandrie, en Égypte, une lettre enthousiaste et joyeuse. Et puis il prend ensuite congé des évêques, il leur recommande d'éviter les disputes qui sont un scandale, même pour les païens. Mais bientôt, le sentiment de bonne volonté qu'il faisait se proclamer lui-même l'évêque du dehors l'entraîne, parce qu'il est mal conseillé, à d'étranges abus. Il est docile à des flatteries qui sont plutôt intéressées, puis il penche à son tour vers l'arianisme, ou au moins il le favorise au risque de compromettre toute l'œuvre du concile de Nicée. Alors dans l'ivresse du pouvoir absolu, il se croit tout permis. Il devient plus ou moins un dictateur religieux, quoi. Puis il force saint Athanase à recevoir Arius, puis il le menace de le déposer de sa charge épiscopale. Pauvre saint Athanase, il est vrai qu'il ne met jamais sa menace à exécution. Et lorsque le concile de Tyr, en 336, donc 11 ans après le concile de Nicée, se réunit sous l'influence des ennemis d'Athanase, l'empereur Constantin n'a que des paroles de désolation chrétienne adressé aux évêques qui ont siégé. Il dit « Je ne comprends rien à toutes les choses que vous avez décidées dans votre assemblée au milieu de tant de troubles et d'orages. Je crains que la vérité ne disparaisse dans ces violences. Vous, les évêques, vous ne nieriez point que je sois un fidèle serviteur de Dieu, puisque c'est grâce au culte que je lui rends que la paix règne sur la terre. » Et que son nom est béni, même par les barbares, c'est-à-dire les gens très éloignés de Rome, là. Ça veut dire les étrangers, les barbares. Hein. Mais on les appelait les barbares, et on sait ce que c'est aujourd'hui, ce que ça veut dire. Hein. Qui auparavant ignoraient la vérité. C'est comme ça qu'il termine. Et c'est comme ça que parlait encore un an avant sa mort, donc, cet homme extraordinaire qui est Constantin, le vainqueur de Maxence, le vainqueur de Licinius. Constantin meurt finalement à 63 ans, en 337, au château d'Achiron, près de Nicomédie, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, après avoir été baptisé, comme je vous avais prévenu au début de l'émission, baptême, qui est bien, bien tardif, pour nos idées modernes, il est baptisé, dit-on, par Eusèbe, évêque de cette ville en Nicomédie. D'autres disent qu'il a été baptisé par le pape Sylvestre. Qui croire? Il y avait une donation de Constantin. Il avait, d'après un faux, c'est un document faux, cédé, pour ainsi dire, tout l'Occident au pape. Ça a duré bien longtemps, cette histoire de donation qui est une horreur. C'est comme si les papes s'imaginaient que pour avoir le pouvoir spirituel, il fallait l'unir au pouvoir temporel ou politique, à la grandeur de l'Europe. Comme si le successeur de Saint-Pierre pouvait se permettre ça, lui qui est successeur d'un pêcheur, d'un homme humble, solide mais humble. Alors ça a duré des siècles, je ne vous raconte pas toute cette longue histoire. Passons à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, la patronne de tant d'auditrices. Elle est née vers 241 à Drépane, en Bithynie, donc en Asie mineure, dans la Turquie d'aujourd'hui, d'une famille plus que modeste. Elle était la mère de Constantin, dont je viens de vous parler. Elle a la chance de conquérir, c'est comme ça, le cœur du tribun militaire Constance Chlore. Chlore, surnom qui lui a été donné parce qu'il avait le teint très pâle. Elle a été associée à sa destinée absolument glorieuse, ce Constance, qui est devenu empereur. Elle le suit en Dalmatie, et elle y donne le jour, là, à Constantin, vers 280. Mais, comme elle est de naissance très humble, Hélène n'a droit qu'au titre de concubine, c'est pas vraiment un mariage. Aussi, quand l'empereur Dioclétien fait de Constance Chlore son mari le César des Gaules, en 293, eh bien cet empereur Dioclétien lui impose de répudier sa femme, Sainte Hélène, pour épouser la belle-fille de Maximien Hercule, qui s'appelle Théodora. On voit donc cette future Sainte Hélène qui doit divorcer. Pas tout à fait un divorce, puisqu'elle est concubine. Hélène s'éclipse donc, mais à la mort de son père en 306, son fils Constantin est acclamé par l'armée de Bretagne. C'est là qu'il est devenu empereur, en Bretagne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis fidèle à la pensée de son chef, qui a toujours marqué ses préférences pour le fils d'Hélène. Le peuple, l'armée, aime Hélène, aime Constantin. Le fils conserve aussi une grande affection pour sa mère, malgré son humble origine, puis la longue séparation qui lui avait été imposée. Et c'est là un des plus beaux traits du caractère de ce jeune empereur Constantin. Il est fidèle à sa mère. Alors sa mère, Hélène, prend rang à ses côtés. Elle a un palais à Trèves, tant que son fils y réside. Son cœur souffre de le voir répudier sa première femme pour épouser Fausta, la fille de Maximien Hercule, qui n'est pas drôle. Fausta, c'est quelque chose. Et Maximien Hercule, qui est brouillé avec son fils Maxence, se réfugie bientôt auprès de son gendre, Constantin, mais il ne tarde pas à conspirer contre lui. Puis finalement, il se tue. Il y a beaucoup de suicides et de crimes dans les familles impériales de Rome. La position donc de Constantin s'affermit, puis il voit que son avenir est intéressant là. Il croit en son étoile. Il est prévenu du mécontentement causé à Rome par la tyrannie de Maxence, puis il décide bientôt de descendre en Italie avec une armée, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup moins forte que celle de son rival. Puis je vous ai raconté ça tout à l'heure, et en traversant les Alpes, là, il voit au crépuscule une croix sur l'horizon. Puis avant de rencontrer son ennemi, bien, il a fait peindre sur les boucliers de ses soldats le monogramme du Christ, puis le Christ a ses projets, il lui donne la victoire en 313. Et la croix va orner dès lors les monuments puis les enseignes de Rome, puis figurer sur les monnaies. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et quand Sainte-Hélène, elle accompagne son fils à Rome, où de nouveaux honneurs l'attendent, Elle reçoit un titre assez important, le titre de Nobilissima Femina, la femme la plus noble. Elle a eu le droit de puiser comme elle voulait, dans le trésor impérial, puis de commander partout. Constantin, son fils, lui concède la résidence impériale de Sessorium, non loin du Latran, non loin de là où est l'église mère de toutes les églises, Saint-Jean de Latran. Ce n'est pas Saint-Pierre du Vatican, hein, c'est Saint-Jean de Latran qui est la mère de toutes les églises. C'est ça, des choses que l'on ne sait pas toujours. Hein. Puis c'est là que, à cet endroit, que Constantin, justement, élève, construit la première basilique chrétienne, qui est toujours là, immense basilique. Oh, elle a été bien retouchée depuis. Et d'après l'historien Eusèbe, ce serait Constantin qui aurait converti sa mère. Mais c'est pas vrai. Il semble bien qu'il faut changer les rôles et attribuer les mesures prises par Constance Chlore là, et Constantin à l'ascendant de cette femme forte qui est de tempérament chrétien et sans doute de foi chrétienne. Et c'est sans doute à l'instigation de Sainte Hélène d'ailleurs que Constantin élève la basilique Saint-Pierre sur le tombeau du prince des apôtres au Vatican. Pas celle d'aujourd'hui évidemment, celle de cette époque parce qu'il y en a eu trois, hein, basiliques. Celle qu'il y a actuellement, c'est la troisième. Sainte Hélène élève une basilique, elle, près d'une de ses villas, sur la voie Lavicane, en l'honneur des saints Pierre et Marcellin. Et là va s'élever plus tard son mausolée. Quand on passe en auto, on le voit, ce mausolée énorme. Non contente de procurer la gloire de Dieu puis de ses saints, Sainte Hélène subvient aux besoins de toutes sortes de personnes, rapporte l'historien Eusèbe. Elle donne de l'argent aux uns, elle donne des habits aux autres. Sainte Hélène délivre les prisonniers et les condamnés aux mines. Les condamnés aux mines, c'était horrible. Puis elle rappelle les exilés, elle protège les faibles contre les puissants, contre les oppresseurs. C'est ce que rapporte l'historien Eusèbe de cette époque. En l'an 324, la victoire de Constantin sur l'empereur d'Orient Licinius, dont je vous ai parlé, qui avait repris la persécution là, contre les chrétiens, c'est pour ça que Constantin lui a livré la guerre, ça procure à sa mère un champ d'action immense. Comme elle est proclamée Augusta, un titre d'impératrice, quoi, Sainte Hélène obtient en même temps le droit de battre monnaie à son effigie, puis de porter le diadème. Alors, il y a de terribles drames de famille qui assombrissent la joie de ses années de triomphe. Il y a Crispus, fils de Constantin et de sa première femme. Ben, il est condamné pour lèse-majesté sur les accusations de l'impératrice Fausta, dont je vous ai dit qu'elle était bien méchante. Puis, les vilenies de cette Fausta sont finalement découvertes, puis elle est elle-même supprimée sans procès en 326. Comme vous voyez, Constantin n'y va pas de main morte. Il supprime son fils de son premier mariage et sa deuxième femme, Fausta, qui est l'impératrice. Ces événements, sans doute, amènent Sainte Hélène à quitter la ville de Rome, encore païenne en majorité, pour aller explorer les lieux saints en Palestine, qui sont soumis désormais au pouvoir de son fils et au sien depuis la guerre contre Licinius. Et je vous raconterai tout à l'heure son voyage et ce qu'elle va faire en Terre Sainte, là où on dit qu'elle a découvert la vraie croix. Alors nous revenons à Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Sainte Hélène qui est fêtée le 18 août. Alors, il y a eu les événements terribles des condamnations à mort autour d'elle. Elle quitte donc cette ville de Rome, comme je vous ai dit, qui est bien païenne, pour s'en aller en Palestine. Elle veut visiter les lieux saints. Et puis, elle traverse les Balkans Elle hiverne à Chypre, sur l'île de Chypre. Elle aborde à Tyr, puis elle gagne Jérusalem. De grands travaux s'accomplissent sur l'ordre de Constantin pour dégager les lieux saints des monceaux de terre sous lesquels les lieux saints étaient ensevelis depuis l'empereur Adrien. Et tout ça, c'est pour y ériger la basilique de l'Anastasis. L'historien Eusèbe rapporte simplement qu'Hélène a construit deux basiliques. C'est quand même quelque chose, deux basiliques. L'Eléona, au Mont des Oliviers, et cette extraordinaire basilique de Bethléem, qui est encore debout, à peu près intacte, et où les catholiques diminuent de plus en plus, les chrétiens disparaissent à Bethléem. Les Israéliens juifs prennent de plus en plus du terrain là-bas. C'est tragique. Tragique. Elle est à peu près intacte, cette basilique. Il faut la voir, c'est une merveille. Et c'est là qu'on peut vénérer l'endroit traditionnel où l'on dit que Jésus est né. Même s'il n'est pas né là, ça n'a pas d'importance. C'est de vénérer à la suite de tous les croyants l'incarnation de Dieu. C'est très émouvant. Il est possible que Eusèbe, l'historien, écrivait à l'époque des fils de l'impératrice Fausta, qui a voulu minimiser le rôle de Sainte Hélène, qui était jalousée de leur mère. Il ne parle pas de l'invention de la croix, c'est-à-dire la découverte de la croix. J'aime donc pas ça, ce mot « invention » qui vient du latin, mais on devrait dire simplement la découverte de la croix aujourd'hui. C'est comme l'adoration de la croix. J'ai horreur de ça, c'est des mots qu'on ne devrait pas utiliser aujourd'hui, à la fin du XXe siècle quand même. Et il faut attendre un siècle pour voir Sainte Hélène associée à cette découverte extraordinaire. Voici le récit de Saint Ambroise. C'est un beau récit, le récit de Saint Ambroise. Je ne vous en lis qu'une toute petite partie. Hélène commença par visiter les lieux saints. L'esprit lui souffla de chercher le bois de la croix. Elle s'approcha du Golgotha et dit « Voici le lieu du combat. » Où est la victoire? Je cherche l'étendard du salut et ne le vois pas. Elle creuse donc le sol, en rejette au loin les décombres. Voici qu'elle trouve pêle-mêle trois gibets, trois croix si vous voulez, trois gibets, sur lesquels la ruine s'était abattue et que l'ennemi avait caché. Mais le triomphe du Christ peut-il rester dans l'oubli? Troublée, Hélène hésite. Elle hésite comme une femme. Mue par l'Esprit-Saint, elle se rappelle alors que deux larrons furent crucifiés, deux voleurs furent crucifiés avec le Seigneur. Elle cherche donc la croix du milieu, où est crucifié Jésus. Mais peut-être, dans la chute, ont-elles été confondues et interverties. Elle revient à la lecture de l'Évangile et voit que la croix du milieu portait l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Par là fut terminée la démonstration de la vérité, et grâce au titre fut reconnue la croix du salut. Hélène, donc, trouva le titre, c'est-à-dire cette affiche au-dessus de la croix, là, et elle adora son roi. Vous savez que cette affiche serait conservée au Vatican. À la même date qu'Ambroise, de nombreux textes qui apparaissent où les faits vont toujours en s'amplifiant. C'est mieux de se résigner à être mal renseigné sur ce point. De toute façon, Sainte Hélène est restée peu de temps en Palestine, puis elle est morte vers 329. On dit qu'elle a été enterrée à Rome, et puis l'abbaye d'Auvilliers, Auvilliers, en France, prétendait posséder ses reliques. On dit aussi qu'elles sont à Venise, ces reliques. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Bien, l'entente réalisée entre l'Église et le pouvoir impérial, ça constitue vraiment aucune entrave à la vocation missionnaire universelle du christianisme. Avant Constantin, le chrétien passait pour un être à part, un individu étranger à la société, comme il l'est devenu maintenant aujourd'hui presque. Pour ainsi dire, un ennemi de l'intérieur. Mais c'est ce qui nous arrive de plus en plus aujourd'hui. Trop de considérations politiques et sociales troublaient les questions proprement religieuses à l'époque de Constantin. Et désormais, finalement, à cause de Constantin et d'Hélène, Sainte Hélène, le chrétien ne se trouve plus privé de ses possibilités d'action dans la vie sociale et politique. Et toute une dimension donc importante de sa vie humaine lui est rendue, et désormais, les païens, que seules les difficultés politiques ou patriotiques empêchaient de se convertir, pourront aller vers le Christ plus aisément, et le chrétien redevient un citoyen à part entière. Et le païen peut devenir chrétien sans cesser pour autant d'être un citoyen. C'est ce qui est arrivé. L'Église ne peut se dispenser de ménager la coexistence entre elle puis l'État, hein, sous peine, évidemment, d'entraver elle-même sa mission. Elle doit utiliser toutes les ressources du nombre puis de la pression morale pour obtenir de l'État le droit de vivre, simplement, puis d'évangéliser ce qui est son droit, me semble, pour entraîner plus de moralité intelligente là dans la vie publique et dans les lois. On voit bien, il y a des lois antimorales actuellement. Ne serait-ce que la loi sur l'avortement, c'est antimoral. C'est inconcevable. Inconcevable. De son côté, l'État ne peut rester neutre dans les questions religieuses quand le nombre de ses citoyens chrétiens augmente à vive allure. Alors que le christianisme soit religion officielle ou non, cela importe assez peu. Ce qu'il faut, c'est que l'État ne déclare pas la guerre à l'Église, ni ne cherche à s'en servir comme d'une espèce de caution. Nous ne sommes pas en régime musulman. Nous sommes dans un régime démocratique et de liberté. Il faut s'accepter comme nous sommes. C'est dans un livre de prières curieuses que j'ai cette petite prière. Lorsque j'étais enfant au Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait s'accepter comme tel qu'on est. Je ne savais pas qu'on peut être fatigué, fatigué de soi-même, et de dire qu'on a manqué sa vie. J'ai connu bien des tentations, et celle-là, je crois, c'est la plus forte. Tout cela, ô Seigneur, je voudrais l'accepter, et m'accepter moi-même, si pauvre que je sois. Ne plus me tourmenter de ce qui eût pu être, et trouver mon bonheur à faire ce que je peux. C'est une prière très simple, qui s'applique bien à tout le monde, je pense bien.